With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Après quelques mois de pause forcée, la politique, elle aussi, est bel et bien déconfinée depuis la mi-mai 2020. Tellement déconfinée qu'elle s'apprête à renouer avec l'exercice démocratique interrompu un poil brutalement en mars et ce second tour des élections municipales qui, enfin, va pouvoir se tenir. Alors, outre le fait que la campagne pour ce scrutin n'a pas à proprement parler été des plus classiques, on y a une nouvelle fois vu circuler et émerger une figure qui commence à devenir récurrente dans notre vie publique. C'est celle du clown venu foutre la zone dans le jeu politique. En l'occurrence ici, il s'agit de Rémi Gaillard, le comique devenu candidat à Montpellier qui, fort de ses près de 10% au premier tour, s'est retrouvé en position de peser sur le second tour via le jeu des alliances. Au-delà des municipales d'ailleurs, la période du confinement a vu d'autres figures du monde du divertissement sortir de leur territoire pour tremper un orteil ou deux dans le grand bain de la politique. Jean-Marie Bigard, évidemment, même si évidemment c'est peut-être pas le bon mot, mais aussi dans une moindre mesure Cyril Hanouna et l'inénarrable Afida Turner. Qu'est-ce que les clowns viennent faire dans ce monde très sérieux ? Quel est leur rôle et qu'est-ce que leur succès d'estime, au moins, nous dit de l'état de notre monde politique. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
L'humoriste Jean-Marie Bigard se dit intéressé par une candidature en 2022.
Parce que ça pourrait, si ça pouvait aider au peuple à avoir une voix sincère qui ne ferait partie d'aucun parti politique.
Franchement, je crois que le maire qui est en train sur Twitter de m'envoyer des missiles via ses colistiers parce qu'il n'a pas le courage de le faire lui-même, je crois qu'il est en train de chier très mou en ce moment et d'autres candidats aussi.
Alors, restez polis quand même.
Il y a plus de gens sûrement prêts à voter pour moi qu'à voter pour un autre parce que au moins moi je veux pas être élu quoi, j'ai cet avantage.
C'est sérieux la politique.
Pour en discuter, j'ai passé un coup de fil à Linda De Matteo. Elle est anthropologue, elle a consacré sa thèse baptisée L'idiotie en politique au parti d'extrême droite italien La Ligue du Nord et à la place de la dérision dans son discours. Il sera donc question plusieurs fois d'Italie ici. D'autant plus que le pays a dans son offre politique un clown devenu un acteur majeur, l'humoriste Beppe Grillo, à l'origine du mouvement 5 étoiles, la formation actuellement au pouvoir. J'ai commencé par demander à Linda De Matteo quelle place et quel rôle avait selon elle le clown dans le jeu politique.
Je pense que les comiques, dans la mesure où ils ont un rôle critique, ont tout à fait leur place dans le jeu politique. Pour moi, c'est quelque chose de différent à partir du moment où le comique rentre lui-même dans le jeu politique et devient un acteur politique en briguant un mandat, par exemple. C'est plus du tout la même chose. Et je pense qu'à ce moment-là, il cesse d'être un comique. Et c'est ce passage-là qui est intéressant en soi, qui est intéressant à observer. Moi, c'est ce que j'ai observé en Italie avec la transition de Beppe Grillo. Le parcours de Beppe Grillo est particulier, en fait. Les comparaisons qu'on fait actuellement entre le cas de Jean-Marie Bigard en France et Beppe Grillo, ça n'a aucun sens, en fait. C'est pas du tout même comique. Beppe Grillo a construit sur le long terme sa figure de comique contestataire, complètement en opposition avec le système politique italien et le système médiatique, c'est-à-dire qu'il n'apparaissait même plus sur les chaînes de télévision nationales. Et il avait pris l'habitude de réaliser pour le nouvel an, en fait, juste après le discours officiel des vœux du président, ses propres vœux, en fait, qui étaient une critique des institutions italiennes. Donc, il a construit sur le long terme vraiment sa figure d'opposant. Et il a émergé politiquement à un moment où les Italiens étaient excédés en fait, par le pouvoir berlusconien. Ce sont les, il a été porté en fait, par les gens qui avaient voté pour Silvio Berlusconi et qui étaient déçus. Mais bon, il a emmené avec lui aussi beaucoup de gens de gauche, des gens qui étaient sensibles à des thématiques qui n'étaient pas exprimées à ce moment-là par le Parti démocratique. Il avait un discours très écologiste. C'est aussi l'émergence d'une nouvelle génération en politique en Italie. Donc, c'est un phénomène qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus multiforme qu'on l'imagine en France, qui est difficile à comprendre et à expliquer.
Le point de comparaison là, qui revient également, outre Beppe Grillo, c'est Coluche, évidemment, puisque c'est à peu près la seule occurrence qu'on a où un comique, quelqu'un qui est identifié comme faisant partie du monde du divertissement, s'est présenté politiquement, a failli se présenter politiquement aux Français, même si ça n'a pas abouti, qu'il n'a pas été candidat finalement en 81. Vous dites qu'il y a une grosse différence là aussi vis-à-vis de Jean-Marie Bigard, qu'on n'est pas du tout dans la même configuration.
Non, pas du tout. Je pense que c'est pas non plus le même moment politique. Donc là, on était en 81, au moment où la gauche allait arriver au pouvoir, et c'était un moment historique. En fait, Coluche a été soutenu par des personnalités de gauche, par des intellectuels, par Pierre Bourdieu. Donc, c'était un moment politique complètement différent. Et il risquait, en fait, de mettre un peu en péril la candidature de François Mitterrand en ce moment-là. Donc, c'est aussi pour ça qu'il s'est retiré, je pense, finalement. Coluche, c'est quand même une figure centrale dans toute cette histoire du clown en politique, parce que moi, je suis persuadée qu'il a inspiré également le parcours de Beppe Grillo. Beppe Grillo a eu l'occasion de le connaître lors du tournage d'un film franco-italien, Le Fou de guerre. Et je pense qu'il a été fasciné par la figure de Coluche. Coluche, c'est non seulement un grand comique, c'est aussi un grand acteur, et ça, on l'oublie souvent. Je pense que Beppe Grillo a toujours été assez frustré de ne pas avoir pu faire une carrière d'acteur. Et de la même façon, son comique, c'est très particulier. Moi, je suis allée voir ses spectacles. Il fait des discours politiques. C'est un comique, on va dire, donneur de leçons, en fait. Il critique le système politique italien. C'est vraiment un discours politique très articulé. Moi, ça ne m'a pas vraiment fait rire. J'ai trouvé ça intéressant, vraiment, son spectacle. Je l'ai vu également en meeting sur les places. C'était autre chose. C'était vraiment un discours politique. Mais ce qui était frappant, c'est de voir qu'il dénonçait des choses terribles. Il dénonçait aussi notre situation. Enfin, il s'adressait aux gens en leur expliquant que la situation de la planète était terrifiante et qu'il fallait vraiment réagir et faire quelque chose maintenant parce qu'il allait être trop tard. Donc, il prenait aussi en charge les discours que les hommes politiques ne tenaient pas. Et donc, c'était important en Italie à ce moment-là. Mais en même temps, il le faisait avec une petite voix. Beppe Grillo, il a une petite voix, en fait. Et le fait que les gens rient de ces discours qui sont si graves, c'est quand même assez particulier. Et à mon avis, c'est là que se joue la particularité du comique de Grillo, en fait. C'est qu'il permet aux gens de rire, finalement, de leur peur. Et c'est pour ça aussi que ça a fonctionné. Mmh. Ça a détourné l'énergie aussi de la colère et de la révolte en Italie. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu vraiment de mouvement à gauche qui a émergé en Italie, comme ça a été le cas en Espagne ou en Grèce au même moment. Donc c'est aussi une forme de détournement de la colère de la population.
Est-ce que c'est ce qui explique cette colère et cette frustration vis-à-vis du système politique, notamment européen, qui semble assez grippé au fil du temps? C'est ce qui explique l'attrait que représentent ces figures alternatives qui, de toute façon, ont toujours un positionnement anti-système, quelle que soit l'épaisseur de leur colonne vertébrale politique derrière, le positionnement central, c'est l'anti-système.
Oui, tout à fait. Le motif central, le mot d'ordre de Beppe Grillo, qui va être aussi repris par Jean-Marie Bigard, c'est le fameux vaffanculo. C'est l'idée de la revanche, finalement, sur un pouvoir auquel on ne fait plus confiance. Les gens ont l'impression de se faire avoir. Et il y a une colère qui monte dans le pays. Cette colère-là, en Italie, elle vient de loin, elle vient des années 90, hein, ça n'est pas hier. Donc, ça s'exprime de manière très violente par la voix du clown. Et on a la même chose aujourd'hui avec Jean-Marie Bigard, qui se fait en quelque sorte le porte-parole des Gilets jaunes. Ça, il faut voir exactement si ça a un sens ou pas. Il a été très sensible à ce mouvement, comme il est très sensible à la situation des gens là, au moment du confinement. Donc ça aussi, ça rentre en résonance avec ce que vivent les Français à certains moments. Le ton de la voix, la vulgarité, en fait, il porte une colère. à un moment donné, à un moment précis. Ça, c'est central. C'est pour ça que les gens les suivent. Il y a un rapport qui se noue avec le pouvoir politique à ce moment-là qui est complètement différent. C'est inquiétant parce que ça vient signifier il n'y a plus de lien. Parce qu'il ne faut pas oublier que le clown, c'est donc, la construction d'une représentation populaire. J'ai parlé de la figure du beauf pour Jean-Marie Bigard en France parce que cette figure, elle a aussi une histoire, un comique français. En fait, il construit une représentation du peuple qui est finalement assez dévalorisante. Donc, il y a aussi une perte de confiance chez les gens. Ça vient signifier aussi une perte de confiance en soi, une perte de confiance dans le pouvoir. Et Charles Baudelaire qui disait que le rire, c'était la faiblesse qui se moque de la faiblesse et qu'il y avait quelque chose de démoniaque dans le rire. Et c'est très inquiétant finalement que les Français aujourd'hui rient d'une représentation de cette figure du peuple qui est dévalorisante et qui est censée les représenter eux. Qu'est-ce que ça veut dire en fait dans notre rapport à la politique, à la représentation et à la nation aujourd'hui?
Sur la manière de parler, est-ce que ce succès de personnages voilà, très truculents, je pense à Marcel Campion aussi par exemple, même si son succès peine à se transformer dans les urnes, mais il a eu au moins un succès d'estime, on va dire, à la municipale parisienne, ou à Rémi Gaillard aussi, qui est candidat dans le sud de la France. Le succès de ces personnages et de leur franc-parler, ce qui est perçu comme un franc-parler, vient aussi peut-être en miroir d'une langue politique qui est vidé de sa substance, c'est-à-dire qu'on s'est habitué à un discours très policé, très neutre, finalement, à une manière de parler, de s'adresser aux Français, qui fait que, nécessairement, une parole telle que celle que portent ces personnages-là détonne totalement.
Oui, oui, moi j'ai étudié cet aspect-là, parce que je pense que c'est central au moment de l'émergence de la Ligue du Nord.
Petite parenthèse pour préciser donc que la Ligue du Nord, c'est ce parti d'extrême droite italien qui a plusieurs fois accédé au pouvoir, auprès de Berlusconi d'abord, puis plus récemment aux côtés du mouvement 5 étoiles de Grillo, avec notamment le très médiatique Matteo Salvini, qui est l'actuel dirigeant du parti, l'héritier du fondateur Umberto Bossi, qui est celui qui en a fait, notamment via l'usage de la dérision, un parti de premier plan. Voilà, fin de la parenthèse, retour à notre discussion avec Linda De Matteo.
Umberto Bossi, c'est pas un clown. Là, il faudrait faire des différences aussi, parce que je pense qu'on avait des hommes politiques à un moment donné qui ont utilisé l'humour pour en fait séduire les classes populaires. Umberto Bossi l'a très bien fait. Berlusconi, après lui, a repris un certain nombre de schémas. Et ça a été crucial, cette affaire-là du langage, dans les premiers succès de la Ligue du Nord. Parce que les politiciens italiens avaient un discours que les gens ne comprenaient plus. C'est la langue de bois, en fait. Et à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol par rapport à cette manière de parler. Les gens avaient le sentiment qu'on les menait en bateau, finalement. Donc, lorsque Umberto Bossi est arrivé avec ce discours très direct, c'est un discours très simple, hein, très stéréotypé. En fait, Umberto Bossi ne disait rien de nouveau sur la situation économique et politique de l'Italie. À ce moment-là, il reprenait des discours communs, mais ça venait tellement tranché avec ce que les gens avaient l'habitude d'entendre qu'ils ont voté pour cet homme qui était inconnu à l'époque, hein, parce que c'était beaucoup plus frais, ça paraissait beaucoup plus, beaucoup plus novateur d'une certaine manière que ce qu'ils entendaient depuis des années. Et c'était aussi une manière de marquer leur ras-le-bol, une certaine forme de politique. Et en même temps, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les réseaux sociaux ont ouvert la porte à toutes ces figures et à ces nouveaux langages. Parce que Rémi Gaillard, lui, il émerge sur les réseaux sociaux. Et une figure comme Rémi Gaillard, dans un autre contexte et une autre époque, ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui d'émerger. Il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, par exemple, la plateforme de la Ligue du Nord, aujourd'hui, c'est la page Facebook de Matteo Salvini. Mmh. La Ligue du Nord n'a plus de journal de parti, alors qu'elle en avait un jusqu'en 2008 à peu près. Mais comme ils avaient des difficultés financières, tout ça, ça a coulé. Et donc aujourd'hui, Matteo Salvini ne fonctionne qu'avec sa page Facebook. Comme Jean-Marie Bigard et Rémi Gaillard, en fait.
Ce qui, moi, me questionne et m'interroge, c'est que je comprends la nécessité d'avoir des éléments perturbateurs dans le jeu politique. Là où je trouve qu'on atteint un point de bascule, c'est que ces personnages qui, de leur propre aveu, en plus se présentent en étant uniquement là pour foutre le bordel et pas uniquement pour gagner ou pour assumer des fonctions, se retrouvent parfois en position d'assumer justement des fonctions importantes et d'accéder à des fonctions alors que C'est en contradiction même avec le positionnement qu'ils ont. Là, j'ai l'impression qu'on a basculé dans autre chose depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années maintenant.
Mais c'est là aussi que c'est un peu illusoire, parce que finalement, ces personnages, ils ne sont pas non plus en mesure de faire tout un travail administratif derrière la fonction de représentation. Donc, et là, ils rencontrent très vite leurs limites. En fait, ils peuvent obtenir un mandat, effectivement, ils peuvent être élus en jouant sur cette corde du comique. Mais après, que sont-ils en mesure de faire? Qu'est-ce qu'ils portent comme discours politique et comme programme? C'est une autre question. Et finalement, Umberto Bossi, sa fonction dans le jeu politique italien, elle n'a pas été non plus très marquante. Il est resté quand même dans les institutions pendant des années. Qu'est-ce qu'il aura produit? De la même façon, Beppe Grillo, lui, ne peut pas être élu parce qu'il a été condamné par la justice italienne. Il a tué quelqu'un, malheureusement, dans un accident de voiture, donc il ne peut pas prétendre à un mandat, en fait. Donc, il ne peut pas être élu. En même temps, tous les élus qui sont rentrés dans le système politique italien grâce à lui, ils ont dû apprendre aussi un métier. Ça n'a pas été évident. On a bien vu au départ que les représentants du mouvement 5 étoiles avaient des difficultés à s'adapter au fonctionnement des institutions italiennes. Il y avait des problèmes de compétences. Bon, ça, on le voit à partir du moment où il y a un changement de génération. C'est une période de transition. Mais ça, c'est assez lu. Ça a été assez difficile pour eux, cette première phase, en fait, du gouvernement. Mais certains aussi décident de rester, mais complètement dans la représentation, en fait, et de donner le travail administratif. Moi, je l'ai vu, c'est le choix qui a été fait dans la Ligue, et ça, quasiment depuis le départ, en fait. Comme ces personnages étaient essentiellement intéressés par la représentation, par leur image médiatique, par le scandale qu'ils pouvaient créer, ils ont quand même une influence très forte, hein, parce que en faisant scandale, ils font peur aux représentants des autres forces politiques, donc ça leur donne aussi un poids dans le système. Donc ils arrivent à conditionner tout le monde. Mais en même temps, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Pas grand-chose. Et souvent, ils ont délégué le travail administratif à d'autres figures, qui sont assez plus discrètes, qui est en arrière-plan, qui souvent étaient issues eux-mêmes des institutions. Donc ils ont recyclé aussi beaucoup de gens. Ils ont permis, dans la Ligue, ils ont aussi permis à des gens d'extrême droite de rentrer dans le système politique, alors que ce n'était pas le cas avant en Italie. C'était beaucoup plus difficile, il y avait vraiment une barrière. Et donc, c'est assez inquiétant parce qu'ils ne sont pas en mesure de tenir leurs promesses. Donc, ils portent une révolte, ce sont des vengeurs, mais au-delà de ça, sont-ils en mesure de produire?
Vous avez souligné un point qui, moi, me paraît décisif, c'est le fait que ces figures-là conditionnent effectivement une bonne partie du jeu politique. J'ai l'impression qu'on a là aussi assisté à un basculement où la figure du clown qui était perturbateur, qu'on pouvait laisser dans un coin, à la limite, qui faisait du bruit, mais dont on pouvait prétendre qu'il n'existait pas, aujourd'hui, les succès de ces personnages font que le reste de l'offre de politique est souvent obligé de se définir par rapport à ces personnages-là. Et donc, d'entrer, de donner un écho, une importance, on l'a vu avec Jean-Marie Bigard et ce fameux coup de fil d'Emmanuel Macron qui l'aurait appelé. J'ai l'impression que, oui, ils pèsent beaucoup plus sur le jeu classique qu'ils n'ont pu le faire par le passé.
Là, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui leur ont donné aussi de l'importance à un moment donné parce que ça servait leurs intérêts politiques. Donc ça, c'est très clair dans le moment où la Ligue du Nord émerge, dans la mesure où c'est aussi un moment politique très particulier pour l'Italie. Les régions du Nord, qui étaient traditionnellement à droite à ce moment-là, ont peur de voir émerger la gauche au moment des élections, etc. Donc, c'est leur intérêt de faire émerger ce bouffon, qui est une figure critique, pour capter des voix au détriment de la gauche. Et donc, les bouffons rentrent souvent dans des jeux de politique classiques. Et ça, c'est intéressant à observer. Il y a eu le coup de fil d'Emmanuel Macron à Jean-Marie Bigard, ça s'inscrit aussi dans toute une stratégie du président de la République de s'adresser à des personnalités plutôt conservatrices à un moment donné pour montrer aux gens qui appartiennent à ces franges-là de l'électorat qui s'intéressent aussi à leurs problématiques. Donc, ça rentre aussi dans une stratégie. Et ça, je pense que Jean-Marie Bigard n'en est pas dupe. Il a essayé de retourner les choses, d'ailleurs. Mais il faut être très prudent avec ce type de jeu parce que, en fait, on ne sait pas jusqu'à quel point on peut maîtriser l'ascendant et du clown. Parce que le clown, il a quand même une force extraordinaire. Il est très populaire. Et ça, ça se vérifie partout. Et c'est dangereux de jouer avec ces clowns.
Et vous remarquerez qu'on a très habilement évité d'évoquer une autre figure politique pour qui le qualificatif de clown pourrait s'adapter. Un président en exercice, en quête de réélection, de l'autre côté de l'Atlantique, je sais pas si vous voyez. Enfin bref, c'est un sujet à lui tout seul. Merci à Linda DeMatteo pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas vous laisser embobiner par les clowns. Et à lundi pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.